Là, un jour, j'ai participé à un colloque. Il y a toutes les actes là, ils ont eu courage, vraiment l'honnêteté d'éditer ce que j'avais dit. Ça a duré une semaine. Et d'ailleurs, corollairement, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais parler sans notes, comme je fais d'habitude. Ils m'ont dit, on a besoin d'un texte, vous voulez le texte à l'avance, comme il faut. Je dis, moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ben, je sais ce que j'ai à vous dire, mais pas dans la forme, je ne sais pas. Si vous voulez, ben, demandez à une secrétaire de prendre ça en sténo, elle rédigera le texte, vous me l'envoyez, et puis, si ça va, ben, vous l'éditez. Et elle a rédigé le texte, très bien rédigé d'ailleurs. J'avais deux ou trois mots à changer, pas plus, et j'ai rien changé, j'ai rien touché, je leur ai dit, écoutez, prenez ça sous votre responsabilité, mettez mon nom si vous voulez, et éditez le texte que vous avez. Ils ont eu le courage de l'éditer. J'ai fait faire des photocopies d'ailleurs. Oui. Ah, vous les avez ? Ah, vous les avez lues ? Ouais, ben vous avez vu ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est ça dont je vais vous parler. Alors, je leur dis en clair que il y avait d'ailleurs une salle énorme, je crois 3000 personnes, dont les trois quarts, c'était des évêques, de bonnes sœurs, des curés, tout en habits, en survie, en de l'eau. Puis il y avait un petit commando juif dans le coin, il était comme ça, stupéfait, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappellerai d'ailleurs toute ma vie du silence qui a suivi cette exposé. Et alors, en clair, vous croyez dans une figure qui s'est substituée à Israël et qui cache Israël et le Dieu d'Israël. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De ça, je n'ai pas parlé là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, vous en avez un exemple. Okay. Ce que je voulais ajouter, c'est ceci. Les fondateurs du christianisme, c'est ça le phénomène historique. Qui sont les personnages historiques? C'est les premiers chrétiens. Ça, c'est de l'histoire. Leur objet de croyance, c'est un objet de croyance. Vous avez compris le point? Alors, je crois que pour les juifs, l'effort à faire, c'est de se dégager de cette tentation de fierté. On leur a donné un personnage pareil. Okay. C'est très ambigu, parce que c'est enveloppé de mépris. Quand vous dites ça à un chrétien, je crois que je le dis au début, bien entendu, on ne peut pas admettre qu'il soit Dieu. Alors on vous concède qu'il est un prophète. Vous les insultez, c'est pas en ça qu'ils croient. Ils croient qu'il est vraiment un Dieu incarné dans un homme. Alors on a une espèce d'attitude de philosophe méprisant un primitif dans ses croyances païennes et cannibales d'ailleurs. Okay. Parce que c'est l'effectuation du rite. Eh bien, c'est un rite des religions à mystère de l'Antiquité. Vous avez compris le problème. Bon, ça me prendrait trop de temps. Mais, ou de la Vierge Marie, ou tout ce que vous voudrez. Et tout ça, c'est des secrets de la Torah qui concernent l'histoire d'un peuple. Ils en ont fait des thèmes païens de l'histoire d'une famille, la Sainte Famille.
Ça,
hein? Pas du tout. À l'origine, il y a des thèmes de la Kabbalah dans tous leurs mystères, des thèmes de la Kabbalah qu'ils ont utilisés à l'intérieur de ce mythe qui était, si vous voulez, un thème courant à cette époque et plus avant dans ce qu'on appelle les religions à mystère, le mythe du Sauveur. Cette secte du mythe du Sauveur a réussi parce qu'elle était, si vous voulez, la rencontre entre l'identité d'Israël et la civilisation du temps. Ils ont pris comme figure du Sauveur l'identité d'Israël. Et si vous lisez attentivement le récit, vous apercevez plusieurs invraisemblances massives. C'est-à-dire que Dieu s'incarne pour dire quoi? Rien de plus que ni les rabbins ni les prophètes n'ont jamais dit, sinon en faisant des citations fausses, mais pour faire de la sociologie religieuse. Ne soyez pas hypocrite, c'est de la sociologie religieuse de problèmes qui vont dans toute société, même chrétienne. Alors, tout ça pour ça, c'est-à-dire un événement aussi énorme dans l'imagination religieuse, que le créateur des univers s'incarne dans une des créatures pour venir faire des cours de sociologie, invraisemblable. Parce que tout ce que ce Dieu fait homme est censé dire à ses fidèles, ne soyez pas des tartuffes, ne soyez pas des jésuites, j'aurais dit, ne soyez pas des pharisiens, ne soyez pas... N'importe quel rabbin normal engueule ces juifs comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez compris le problème? Une disproportion invraisemblable. C'est pas ça qu'ils adorent. Ils adorent pas un fondateur de sociologie religieuse, un réformateur de sociologie. Ils adorent une identité humaine salvatrice de l'humanité, médiatrice entre le créateur et les hommes. Et c'est Israël. Voilà ce que je vous explique.
C'est ce que vous voulez nous dire quand vous dites chaque fois d'être caché par ceux qui le veulent.
Exactement. C'est ce thème-là. Et c'est pourquoi toutes les images nous sont interdites. Parce que quelle que soit la part de vérité qu'il y a dans le dévoilement, ce qui est caché, c'est pire. Ce qui est occulté, c'est pire. C'est pourquoi tu ne te feras pas d'image. Il n'y a pas de doute. Alors, ils sont occupés à l'adoration d'une figure qui est censée représenter Israël, mais dans la haine de l'Israël réel. C'est-à-dire, transfiguré au ciel, crucifié sur la terre. Ils nous ont fait vivre cette histoire. J'étais un peu trop rapide tout à l'heure. Il y a un, je vous trouverai le verset une fois, mais enfin, c'est pas mon travail. Vous lirez ça si vous voulez. Il cite un verset des prophètes. Tu nous feras revivre au troisième jour. Laisse-nous en vie pendant 2 jours et tu nous feras revivre au troisième jour. Et ils ont la même source du Midrash. 2 jours, c'est 2000 ans. Le troisième jour, c'est le troisième millénaire. Alors, il y a eu 2000 ans de Issourine et le troisième jour, c'est la résurrection. Alors, je voudrais vous expliquer cette image que j'ai employée. C'est-à-dire, ils sont encore fixés sur le sens de l'histoire juive, la persécution, la crucifixion, la mise en croix, alors que déjà la résurrection a eu lieu dans leur propre langage. Et la résurrection, c'est l'État d'Israël. Et alors, pour nous, c'est déjà la Pâque, comme ils disent, alors qu'ils sont encore au dimanche des cendres. Vous savez, je pourrais passer un certificat de curé avec ça, tout ça. Bon, c'est le mercredi des cendres. Par exemple, vous remarquez qu'ils mettent toute cette scène à Pessah, et il faut agiter des loulaves, hein, des branches de palmier, c'est Soukhot. Vous croyez qu'ils ne savent pas? C'est des clés sur les cieux. Fais attention à ce que je te dis là. Comprends ce que je te dis là. Vous avez remarqué ça?
Ça, c'est une tradition juive qui dit que le Yom HaShoah, Soukhot, c'est Pessah.
C'est moi qui vous l'ai dit. Hein. Vous l'avez appris. Et là. Tu te rappelles, ça y est. Comme on disait à Oran, le petit train est arrivé. La Trinité, hein. Je sais pourquoi tu me demandes ça. Mais c'est pas le sujet maintenant. Voilà. Et c'est un thème qu'on retrouve dans énormément d'autres traditions. Donc quand vous ferez un peu de cabale, vous comprendrez comment s'est fait le décalage entre les thèmes juifs et les thèmes chrétiens. Et vous voyez, c'est une histoire colossale qui se déclenche. On va essayer de judaïser Rome, c'est ça le chrétien. Okay? Ils se sont fait avoir par Rome. Et très rapidement, ils ont oublié le complot à l'origine. Et c'est ce complot que les rabbins ont interrompu. Et vous voyez comment ça se dégage dans l'histoire. Changement de véhicule culturel. À la place du véhicule talmudique, judéen, juif, hébreu, araméen, ils ont pris le véhicule gréco-romain.
Mais je vous dirai plus.
Au début, cette secte, elle a été très protégée par les pharisiens. Ils y ont eu une sorte de secte genre chassidique, okay, et qui mettait l'accent sur la désincarnation politique. Le fait qu'on renonce à l'histoire. L'histoire est pourrie. On va se réfugier dans des déserts, dans des couvents, dans des gériennes. Bon. Et c'était protégé par les pharisiens, avec une certaine tendresse même. Le schisme a éclaté quand ils ont pris politiquement parti pour Rome contre Jérusalem. C'est au niveau national que le schisme a éclaté. Tant qu'ils étaient comme ça à l'intérieur de la communauté juive, ils ont des midrashim bizarres, hein, ils ne comprennent pas leur midrashim. Mais dès qu'ils ont trahi nationalement, c'est là que le schisme a été consommé. Vous avez compris le... Et c'est pourquoi je vous dis souvent, c'est la première fois que je vous parle en clair comme ça, à ce niveau-là, de ce problème-là, je suis souvent très inquiet de tendances de ce genre dans la communauté juive de diaspora. C'est-à-dire que, au fond, le vrai problème, c'est pas tellement un problème de conception religieuse, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire Eretz Israël ou Medina d'Israël ou pas. C'est un problème de changement d'identité nationale, en emportant une certaine expérience religieuse d'origine juive. À la limite, quelle différence il y a entre un Romain de religion d'Israël, c'était ça le chrétien, et un Parisien la religion d'Israël, c'est ça le juif de France. À la limite, quelle différence il y a. Quand les événements nous obligent à dévoiler ces problèmes d'identité, camouflés pendant 2000 ans, c'est comme ça qu'ils se posent. Vous comprenez ? On n'a aucune idée de la ferveur pour la Bible qu'a un cardinal. Est-ce que ça en fait un juif ? Vous comprenez le problème ? Et quand nous disons, nous, aux cardinaux, en fait, la première fois, c'était à Lyon, où c'était le primat des Gaules, le cardinal Gerlier, qui avait réuni au monde de Vatican de l'écuménisme toutes les tendances chrétiennes de Lyon. Vous savez que c'est le primat des Gaules. C'est le deuxième après le pape. Et il avait demandé que la communauté juive envoie quelqu'un pour participer à la soirée et poser le problème, place du judaïsme dans l'écuménisme chrétien. Bon, c'est moi qu'on n'a pas réfuté là-bas. Et puis, je me rappelle très bien, il y a des hasards comme ça. Je me rappelle, on peut trouver ça d'ailleurs dans les archives, il y a tout un machin qui avait été publié, mais le fait que... qu'est-ce que je disais juste avant ? Oui, c'est la première fois que j'ai dit en public, et je l'ai dit au cardinal, j'ai dit, essayez de comprendre que nous avons un problème d'identification. J'ai d'ailleurs cité par allusion, là, Joseph et ses frères. Il était très content, il dit, oui, le pape Pionze a dit, lorsqu'il a reçu la première délégation du Congrès juif mondial, sur le parvis du Vatican, c'est Joseph qui reconnaît ses frères. Il ne sait même pas ce qu'il disait avec l'Anrouge. Alors, va jusqu'au bout. C'est Joseph ou c'est pas Joseph ? Et alors là, et j'ai dit, comprenez bien une chose, c'est qu'on n'arrivera jamais à faire rejoindre nos registres théologiques, parce qu'un chrétien n'est chrétien que dans la mesure où il croit dans son catéchisme, où il est inscrit à l'Église. Sinon, il est français, il est italien, il est anglais, il est allemand. Nous sommes juifs à la manière nationale d'abord. Ça veut dire un juif, même athée, c'est un juif de la Bible. Un cardinal, même pieux, c'est un goy. Silence dans la salle. Il n'a pas dit ces mêmes mots, mais enfin, c'est la même chose. Vous allez pas comprendre ça, mais comment, pour vous, rabbin, un juif, même athée, c'est un juif, oui, de la Bible, de la halakha. Et un croyant de la Bible, même cardinal, c'est pas un juif. Non, pas du tout, c'est un goy. Voilà, c'est la différence. Vous voyez où le clivage se fait. C'est un goy très sympathique, avec qui on est en communion de ferveur, tout ce que vous voudrez, et moi je comprends les cardinaux, la Bible, c'est la Bible, okay. Mais rien à voir, il n'est pas juif. Et alors que lui, il est sûr que c'est lui le vrai juif. Qu'est-ce qu'il va faire des autres ? Eh bien, les autres, finalement, c'est les inquisitions. Voilà, vous voyez comment, quelle est la gravité de cette histoire ? Et vous voyez le problème énorme que l'État d'Israël leur pose. Résurrection de l'histoire. Okay. Alors, eux, c'est quoi ? Vous avez compris ?
Quelle semble leur critique vis-à-vis de tout ça ?
Ils entendent, mais ils peuvent pas entendre. Mais ils peuvent pas entendre. C'est pas possible qu'ils entendent. C'est-à-dire, il faut tout un travail d'épuration de leur propre foi pour arriver à ouvrir les yeux sur quelque chose aussi simple. C'est que pendant 2000 ans, ils ont adoré une figure et que parallèlement, ils parlent de ce même contenu de serveur vis-à-vis des Juifs, mais des Juifs désincarnés. Quand ils rencontrent les Juifs de l'histoire, quoi, ah, c'est vous dont on parle, jamais d'avis, c'est pas possible, pas tous. Il referme les oreilles. Okay. Comment ? Ah, ok. Eh bien, c'est ça. C'est la reprise des judéo-chrétiens de l'Évangile en tant que juif. Okay. Lui se considère, pas en même mot, comme le vrai grand rabbin de France. C'est ça que les juifs doivent faire. Prendre la tête de l'Église pour judaïser les goïms qui sont les Français. Le grand rabbin de France est un faux. Okay. Le vrai, c'est l'archevêque. Un juif judaïsant la France par le christianisme. Lui, il s'occupe des goyims. C'est ça, la messianité de Joseph. Le grand maître France, lui, s'occupe des juifs. C'est pas clair.
Mais est-ce que cette tradition, cette origine.
Pardon ?
Est-ce que cette
origine s'est perdue très rapidement. Elle s'est perdue très rapidement. Elle était clandestine, c'est un complot. Mais elle s'est perdue à l'ère constantinienne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Au moment où Constantin a pris le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain, au 4e siècle. J'ai cherché à la loupe des gens avec qui parler de ça chez eux. Peut-être que les chrétiens orthodoxes ont encore une petite quelque chose de ça. Chez les protestants, c'est fini. Fini complètement. La théologie protestante, c'est que de la philosophie. Et chez les catholiques, ils sont en plein cirage. Et ils n'arrivent plus à savoir à quoi continuer à croire, parce qu'ils se rendent compte qu'on ne peut plus croire dans ces mystères-là. On ne peut plus croire. Il faut décrypter ça. De quoi il s'agit? Ils n'arrivent pas à le formuler. Mais ce n'est pas à moi de leur dire, voilà comment vous allez faire.
Mais le drame, c'est que dès que la conscience chrétienne tente de s'épurer, elle s'écroule.
C'est ça, c'est tragique. C'est pourquoi je vais vous dire, moi, personnellement, si je n'avais pas un souci, une charge qu'on appelle en langage chrétien pastoral, que j'ai à m'occuper de mes juifs, eh bien, je les aiderais à y voir clair. Pas seulement moi, des gens comme moi, si vous voulez. Seulement, je préfère m'occuper de mes juifs d'abord. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire que c'est au rabbin à les aider à s'en sortir. Mais il faudrait d'abord que le rabbin connaisse le judaïque.
Si comprennent vraiment ce christianisme.
C'est un drame. C'est tragique, oui. Certains d'entre eux, à l'échelle individuelle, font ce cheminement et deviennent juifs. Mais.
Hein? C'est l'inquisition, on peut pas.
Je veux dire.
Est-ce que la dernière grande inquisition qu'on a eue, elle est sortie là?
Mais je crois qu'on a raté le coche. Immédiatement après la Shoah, ça aurait pu être le cas. Et les juifs n'ont pas osé. Les juifs n'ont pas osé. Ça s'est passé à travers le Congrès juif mondial. Ils ont dit, je vous en prie, soyez maintenant gentils avec nous. Vous êtes des braves chrétiens, des vrais croyants. Soyez gentils avec nous. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé la révision du procès, la vraie révision du procès. C'est-à-dire, enlever le masque. Il y a un de trop, Rome et Jérusalem. Et qu'en réalité, la chrétienté, c'est une diaspora d'Israël régularisée. Okay. Mais je vous dis, j'ai conscience de cela profondément. Chaque fois que j'y pense, j'ai des cauchemars. C'est que c'est aux rabbins à les aider à s'en sortir. Parce qu'ils sont bloqués dans un complexe terrible. Et que c'est de la dynamite, ça va finir par éclater, et ça risque de basculer dans une inquisition, dans un antisémitisme. C'est insupportable comme problème. On ne peut pas. Il faut qu'on les aide à résoudre l'équation suivante qui est insoluble. Comment s'être trompé sur l'essentiel pendant 2000 ans et rester infaillible? Vous comprenez le problème? Et j'ai une fois longuement parlé de ça avec le père Riquet, qui n'est pas un grand théologien. C'est un grand prêtre, mais pas un grand théologien. Et il m'a raconté son histoire. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. C'était d'une famille, de l'aristocratie française, monarchiste, antisémite, morasse, enfin je ne sais pas si vous voyez, jésuite. Bon. Et puis, il a fait de la résistance contre les Allemands, il a été pris dans un convoi avec des Juifs. Il a été envoyé au camp de Mauthausen, je ne sais plus comment on prononce ça. Bon, et là il a vécu avec les Juifs, le camp de concentration. Il a commencé à connaître les Juifs, et il a commencé à découvrir dans le camp de concentration l'horreur de l'antisémitisme chrétien. Et il a juré de consacrer toute sa vie à être ami des Juifs et d'Israël, et il le fait sincèrement. Alors je lui ai dit, il m'a dit, vous comprenez, j'étais tout nu avec eux dans les chambres à gaz. Bon, alors là j'ai vu que nous sommes responsables de l'antisémitisme, je consacrerai ma vie à lutter contre. J'ai dit, bon, et la théologie? Il m'a dit, vous savez, on n'abandonne jamais sa mère. Ma mère, c'est l'Église. Voilà. Et il ne peut pas s'en sortir. Comment voulez-vous qu'il quitte sa mère? C'est un jésuite, c'est pas n'importe quel chrétien. Mais il vit avec une croix dans le cœur. Je ne sais pas comment dire. Il est crucifié intérieurement. Et c'est très rare, des cas de ce genre. Certains autres, rares mais qui existent, refusent le problème dans la panique absolue et, comment dire, la fuite en avant, ils deviennent juifs. Bon, et ils referment ça sur eux. Mais à l'échelle... Et puis je me demande, toute cette population de l'humanité dont les curés s'occupent, quel juif va s'occuper? Quel rabbin est capable de s'occuper des Argentins, des Sud-Africains, quelle solution donner? Imaginez que le christianisme se mette en parenthèse en tant que théologie. Qui va s'occuper du lien de la morale biblique avec l'humanité? Les juifs, incapables. Ils sont... C'est une toute autre dimension. Je vous dis, on est pris par le temps. C'est une course contre la montre. Les juifs sont spécialistes de l'existentialisme, du marxisme, du structuralisme, tout ce que vous voudrez. De la Bible pour l'égoïsme, ils savent pas. Incapables. Alors, il faut au moins laisser les curés faire. Vous voyez, dans quelle impasse on se trouve. Parce qu'au moins, quelles que soient les ch'touillottes qu'ils leur racontent dans leur église, ils passent un peu de morale. Et ça, c'est important. Vous comprenez? Enlevez-leur leur théologie, leur morale s'écroule. Et ça ne veut pas dire qu'elle soit vraiment bien adaptée aux exigences de la civilisation contemporaine. Il faudrait aussi les aider à apprendre le Talmud pour savoir comment on applique telle ou telle loi de l'évangile, de la morale évangélique. main.
C'est parti du rôle que nous avons.
Et oui, mais vous voyez dans quelle impasse on se trouve. De quoi s'occupent les communautés religieuses juives, les trois étoiles de cache-route, ah non, ça ne me suffit pas, quatre étoiles de cache-route, voilà de quoi ils s'occupent. Et pendant ce temps, alors qu'il y a un moment historique énorme. Je vais vous dire encore un de mes soucis. C'est que, finalement, la communauté de diaspora et l'Église ont le même problème vis-à-vis d'Israël. Ça veut dire, pour l'Église, c'est très clair. Si c'est les Juifs, ils sont Israël, alors nous, qu'est-ce que nous sommes? Et pour les Juifs de diaspora, c'est très clair aussi. Si c'est Israélien que c'est être Juif, nous, Juifs de diaspora, qu'est-ce que nous sommes? Mais c'est le même problème. Ils vont finalement le mettre ensemble. Contre Israël. Vous comprenez?
Est-ce que vous ne croyez pas que ceux, les goyim, qui s'intéressent de plus en plus en Israël, de plus en plus en Juifs, surtout ceux qui se considèrent athées dans les
ça, c'est la médiation par Israël, l'État hébreu. Bon, mais c'est pas ce problème-là qui nous occupe. Je vais donner un exemple. Depuis quelque temps, on vient me voir de temps en temps au bureau un ancien dominicain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il vient en cours d'externe. Il ressemble beaucoup à un juif d'ailleurs. Un ancien dominicain, voilà, qui, à travers ses études de théologie dominicaine, a découvert qu'il devait faire un voyage en Israël, après tout. Il a fait un voyage en Israël, il a reçu un choc. Bon. Il s'est dit, eh ben, je me suis trompé d'adresse. Quand je suis entré dans les Dominicains, c'était que j'étais sûr que c'était ça, devenir Israël, le peuple de prêtre de l'humanité. Et puis je découvre que c'est vous. Il est en plein désarroi, il commence à apprendre l'hébreu pour essayer d'y voir clair. Tout pétri de dominicanisme. Et voilà, un exemple. Alors, vous comprenez, quelqu'un comme ça, il faudra toute sa vie pour s'intégrer à l'identité juive hébraïque, etc. On ne peut pas en faire un rabbin missionnaire pour les goyim. On ne peut pas l'envoyer chez les Dominicains pour le. Il manque quelqu'un aujourd'hui.
Oui,
oui, oui.
C'est pas Maria. C'est parti, elles sont mariées dans une école.
Ah bon. Quelle heure il est, en fait?
9h10.
Bon, on avance un peu. À propos de quoi je vous parlais de tout ça d'ailleurs? Oui, ça veut dire que c'est ça l'option S. C'est ça l'option. Ils deviennent S.
Donc c'est Israël qui a engendré
S. C'est S avec le fils d'Isaac. C'est ça, S. Qu'est-ce qu'il y a du jeu? Et vous voyez, le problème, c'est que dans aucun séminaire public, dans aucun symposium public entre théologiens, juifs ou chrétiens, on peut parler de ça. C'est pas possible. Une fois, j'avais été invité à la télé, en France, à la suite d'un film sur la vie de Jésus. Ils ont demandé à des théologiens de différentes religions chrétiennes, non la juive, de venir. Alors, c'est comme ça qu'ils raisonnent, quoi. Alors, et je me proposais de parler un peu de ça. Seulement, il y avait le grand rabbin Jaïs dans le studio. Et je ne pouvais pas dire que le grand rabbin est en train de dire des bêtises. Alors je me suis tué. Regardez, le manché, là, comme on appelle, l'animateur du débat, a posé une question au grand rabbin. Vous, monsieur le grand rabbin, est-ce que vous croyez que Jésus a existé? On ne peut pas croire autrement, une histoire pareille comme le christianisme, ça ne peut pas sortir de rien, il y a eu quelqu'un à l'origine. Alors comment je pouvais moi intervenir là-dedans? Et vous savez, à la télé, il faut parler pour un public de millions de personnes à la fois, on ne peut pas employer de termes techniques ni rien du tout, il fallait en quelques phrases essayer de suggérer de quoi il pouvait s'agir. J'ai reçu d'ailleurs quand même des lettres après de Goïm qui ont deviné ce que je voulais dire. De dire, monsieur le rabbin, c'est dangereux ce que vous dites. Si vraiment c'est un homme qui est à l'origine de ça, peut-être il est comme les chrétiens disent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le rabbin? On jugera pas ses fruits. Si vraiment il y a eu un personnage qui a fondé cela, c'est peut-être qu'il est divin. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? En tout cas, dans la mentalité du chrétien, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui dise, oui, il a existé, voilà. Vous avez des livres comme Robert Aron, Flusser, des historiens, qui vous racontent la vie de Jésus. Est-ce qu'ils ont vécu au temps de Jésus? Ils vous racontent la vie d'un juif type en ce temps-là. Et alors, les chrétiens entendent, eh bien oui, c'est la preuve historique que Jésus a existé. Lequel Jésus? Peu importe le juif fondateur de la secte, le Jésus auquel il croit. Seulement voilà, les juifs sont aveuglés, ils ne comprennent pas en cœur en quoi il faut croire. Vous avez compris quoi? C'est clair? Bien, je ne pensais pas d'ailleurs vous parler de tout ça, mais d'où on est sorti pour arriver là? Vous avez remarqué, dès qu'on sort de la synagogue, on tombe dans l'église.
Bon. Ça aurait été différent d'après la religion.
Ben, rappelle-moi.
Parler du sol.
Ah oui, c'est ça. Oui, très bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils ont leur rite, nous avons les nôtres, ça n'a rien à voir. Okay? Ce qui se passe dans une synagogue, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une église. Rien, rien. Il n'y a pas cette espèce de effectuation du mythe dans le rite. Vous comprenez? C'est pas du tout des... les Tarmé Torah, c'est pas du tout des rites de confession religieuse comme il y a chez les Goyim. C'est un comportement anthropologique. C'est une manière d'être homme. Et qui, et cette pratique nous préserve cette différence de manière d'être. Alors ça voudrait dire qu'on sera obligé de leur dire, vous savez pourquoi on va là, sinon on ne veut pas à l'église, c'est pour être sûr de ne pas être français. On ne peut pas leur dire ça. Alors, il faut promettre qu'on va cacher ça, sinon l'exil ne serait pas possible. Ça veut dire une espèce de concession. On va dire, nos mitzvot, c'est comme votre religion, mais elle est différente. Alors, liberté de croyance. Vous avez vos rites, nous avons nos rites. Ça, ils acceptent. Mais leur dire non, ce qui se passe dans la synagogue, c'est une annexe de l'État d'Israël, ça, ils ne peuvent pas accepter. Et c'est normal qu'ils acceptent. Quand en réalité, la synagogue, c'est l'agent juif, ça, ils ne peuvent pas accepter. Et la preuve, c'est que le consistoire joue le jeu. La Alia, allez voir l'agent juif, les Israéliens. Nous, les Juifs, nous sommes des Français. Alors que normalement, si on était dans un monde normal, qui doit s'occuper de la halakha? C'est le consistoire. Et c'est clair. Les juifs sont allés en exil, ils arrivent au consistoire. Alors maintenant qu'ils reviennent de l'exil, d'où ils doivent repartir? Du consistoire, jamais de la vie. Allez voir l'agent juif. Vous avez compris l'histoire de fou. C'est pas 17 rue Saint-Georges, c'est 17 rue Fortuny. Quoi? Et Joseph avait 17 ans, vous rappelez? Il a dit, je cherche mes frères. Mais il ne sait pas où ils sont, 17, je vous sais. Et puis il y a un troisième larron là-dedans, lui, il est 19 rue de Téhéran. Vous savez, quand on a besoin d'un budget, on va au FSGU. Qu'est-ce qu'il vous répond? FSGU. Bien, alors je crois qu'on va continuer cet après-midi. Ouais. Mais vous croyez qu'on va finir par finir ce texte? Hein? Ah, il faut. Bon, comme on dit en général, la suite au prochain numéro. Le courage et l'honnêteté des intellectuels catholiques d'avoir publié cela. Et ça vous signale à quel point ils sont en désarroi devant le fait juif et notre point de vue sur leur histoire. Oui, qu'est-ce que tu veux dire?
Comment explique le fait qu'il est fait à Israël, la plupart des sermons sont faits par Israël, alors qu'il y a un peu du parti de la vie au Shalaïm et que c'est expliqué comme une moteur de l'âme?
Oui, on verra ça cet après-midi, c'est bon.